franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Hier, à cette même heure, seuls les sites des journaux parlaient de sa disparition, mais ce matin, c'est toute la presse qui rend hommage à celui qui, comme le titre Midi Libre, a perdu son dernier combat. Mohamed Ali, point final, point P-O-I-N-G, portrait. Sur deux pages, dans Ouest France, Mohamed Ali, vie et mort d'un géant. Portrait, sur deux pages, dans le journal du dimanche. Mohamed Ali, une légende, c'est un portrait. Sur deux pages, dans le Parisien dimanche, une légende de la boxe, confirme l'édition du Monde en précisant que le champion avait écrit à sa façon une histoire de l'Amérique. Et de fait, s'il a marqué l'histoire de son sport, il a également marqué l'histoire tout court, au travers de son combat acharné pour les droits civiques aux États-Unis, d'où cette phrase à la une de Sud-Ouest, « Il était plus qu'un boxeur ». Récit, dans le journal, de l'écrivain Frédéric Roux, auteur d'un livre remarqué sur Mohamed Ali. « Cette fois, ça y est, il est mort », écrit-il. Mais en fait, il l'était depuis longtemps déjà, lui dont on ressortait le corps glorieux parcouru de spasmes affreux pour en tirer quelques dollars, et lui dont sa femme disait « Ali, maintenant, c'est moi ». Après avoir eu droit de son vivant à son musée, Mohamed Ali n'était plus qu'une fausse idole New Age qui va être ensevelie, comme toutes les idoles, sous les clichés. À commencer par celui-ci, il était le plus grand, phrase que l'on a cessé d'entendre depuis 24 heures. Et l'écrivain poursuit en racontant que si sur le ring, il était en effet le meilleur, il savait être également un bel enfoiré. Mais c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'aimer. Car aux icônes, tout est permis et pardonné d'avance. On pardonnait à Marilyn Monroe toutes ses frasques parce qu'elle était plus qu'une actrice. On pardonnait à Elvis Presley de chanter faux parce qu'il était plus qu'un chanteur. Mohamed Ali, lui, était plus qu'un boxeur et il était, à lui tout seul, les années 60 et les années 70. Et l'écrivain de conclure, cette époque meurt avec lui et ceux qui les ont vécus aussi. Hier donc, si l'on en croit Frédéric Roux, on a tourné la page sur deux décennies. Mais dès lors, que retiendra-t-on de celle que l'on est en train de vivre? Que retiendra-t-on des décennies 2000 et 2010? Et plus précisément, cette décennie 2010, quels événements et quelles figures? Les journaux ce dimanche nous apportent quelques réponses. Bien sûr, il y a les guerres. Guerre en Irak, guerre en Libye, guerre en Syrie et le combat acharné mené contre le groupe État islamique.
Et aujourd'hui, le califat du groupe djihadiste est attaqué sur tous les fronts.
C'est ce que nous raconte François Clémenceau dans le journal du dimanche. Après avoir perdu du terrain cet hiver, l'organisation terroriste est désormais assiégée dans trois de ses bastions en Irak, en Libye, en Syrie, où sont à l'offensive des troupes au sol aidées par les Occidentaux. Des soldats français sont d'ailleurs présents dans le nord de la Syrie. Et autour de Sirte, en Libye, des combats d'une rare violence opposent les milices, soutenant le gouvernement en place et deux milliers de combattants du groupe État islamique, lequel pourrait bientôt perdre le contrôle de la zone. Autre front et autres forces militaires. Sur son blog, un si proche Orient, hébergé par le site du Monde, l'historien Jean-Pierre Filiu dresse un constat affligé de la situation que connaissent les 8000 habitants de Daraya, une des banlieues de Damas, assiégée, elle, par les soldats du régime de Bachar al-Assad. Le 1er juin dernier, cette semaine, pour la première fois depuis 4 ans, un convoi humanitaire a pu pénétrer dans la ville. Convoi qui était évidemment très attendu, mais à la demande du régime d'Assad, il ne portait aucune aide, il ne comportait aucune aide alimentaire, excepté quelques colis de lait pour nourrissons. Mais pour les adultes, interdit d'acheminer des aliments. Aujourd'hui, la population pourtant crève de faim. La faim, donc, comme arme de guerre. D'après l'historien, ce n'est pas la première fois que le despote syrien fait usage d'une telle méthode. Mais alors, mis à part le lait, qu'y avait-il dans ce premier convoi humanitaire ? Des colis de médicaments, mais aucun vaccin, de la pommade contre la gale, des fauteuils roulants et surtout des colis de shampoing. 2000 colis de shampoing. Grâce à la dictature syrienne, les habitants de Daraya pourront donc manger du shampoing. Conséquence des guerres, les flots de réfugiés tentant de rejoindre l'Europe marqueront également les années 2010. Depuis la semaine dernière, 1500 d'entre eux sont morts noyés dans les eaux sombres de la Méditerranée, devenu le plus grand cimetière du monde. 1500, c'est à peu de choses près l'équivalent du Titanic. Ce réfugié tue, commente Pierre Siantowski dans l'édito des Inrecuptibles. Certaines images sont absolument insoutenables sur leurs embarcations de fortune. Ils fuyaient en majorité le chaos libyen. L'information aura pourtant fait moins de bruit que la victoire de Zidane en Ligue des Champions ou la sombre histoire de t-shirt et de costard d'Emmanuel Macron, silence assourdissant de la France sur la question « Se réfugier-tu ?» Mais on s'habitue. Des années 2010, on pourra également retenir ce chiffre publié par une association australienne des droits de l'homme. Depuis 2014, l'esclavage dans le monde a augmenté de près de 30%, chiffre relayé par le site Slate.fr. Travail forcé, trafic d'êtres humains. Sans surprise, l'Inde et la Corée du Nord sont les pays où l'esclavage est aujourd'hui le plus présent. L'esclavage pourtant illégal sur l'ensemble du globe depuis 35 ans, mais selon les estimations de cette association, ce sont près de 46 millions de personnes qui connaissent encore cette situation, 46 millions d'esclaves dans le monde. De la décennie 2010, on retiendra aussi le climat qui se dérègle, le climat qui devient fou et qui rend fou. Et bien sûr, la crue de la Seine à un niveau rarement égalé depuis des années.
Oui, et le sujet continue de faire la une ce matin.
Notamment celle du Parisien qui estime le coût des dégâts à au moins 1 milliard d'euros, une facture colossale et pour les sinistrés de ces inondations qui ont touché de nombreuses régions françaises, des pertes qui vont au-delà des simples pertes matérielles. Ce sont des souvenirs, parfois des pans de vie entiers qui ont été emportés par les flots. Il faut alors faire le deuil d'une partie de son existence, reconnaît le psychiatre Christian Navarre. Que ressentent les victimes après une telle catastrophe, lui demande le journal. C'est un choc psychologique et un traumatisme collectif, répond-il. Les gens perdent leurs repères d'un seul coup, ils sont pris par surprise, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire contre des inondations, et ensuite il y a la peur que ça se reproduise. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nuage gris. En gros, dès qu'il y a un orage, et dès qu'il y aura à l'avenir un orage, les gens penseront directement à ce qu'ils ont vécu. Alors, comment les victimes peuvent-elles se reconstruire? D'une part grâce au groupe, à la solidarité et à l'entraide. Ensuite, elles passent par plusieurs étapes. La colère, la revendication, puis la phase d'acceptation. Ça permet de sortir du déni et d'admettre que lorsqu'on s'habitue et lorsqu'on habite à côté d'une rivière, il est possible qu'elle déborde. Dans la reconstruction psychologique, il y a aussi la reconstruction matérielle. C'est très important, dit-il, de nettoyer sa maison. Le nettoyage, c'est aussi un bon moyen de lutter contre l'anxiété, enlever la boue, racheter des meubles, remettre à neuf son intérieur, même si cela ne sera évidemment pas exactement comme avant. Pour les victimes de pédophiles, rien ne peut être non plus comme avant. Nouveau témoignage aujourd'hui qui mettent directement en cause l'évêché de Lyon.
C'est à lire notamment dans Le Monde.
Le quotidien qui a eu accès au dossier judiciaire dans l'affaire des agressions sexuelles commises par un prêtre. Et ce qui apparaît clairement, c'est que les autorités du diocèse connaissaient les faits depuis 1991. Les quatre cardinaux qui se sont succédés à l'archevêché de Lyon avaient été tenus informés. Et pourtant, il aura fallu attendre une admonestation du pape en 2015 pour que son ministère soit retiré au prêtre. Titre du papier, comment l'église de Lyon a couvert des actes de pédophilie. Et puis, nouvelle affaire sur le site Mediapart, révélation sur la méthode du cardinal Barbarin. En 2010, Philippe Demorand, prêtre du diocèse de Lyon, est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur un jeune de 20 ans, alerté 2 ans plus tôt. Le cardinal de Lyon n'en a jamais informé la justice, se contentant d'éloigner le prêtre vers le diocèse de Nanterre. Là encore, Mediapart a pu consulter des pièces du dossier d'instruction qui révèlent une véritable méthode du cardinal, entre peur du scandale, non-dénonciation et exfiltration. Hier, le pape a expliqué que les évêques qui avaient couvert des actes pédophiles devaient être sanctionnés.
D'autres faits, Frédéric, ce matin, qui pourront peut-être marquer ces années 2010.
Quand la publicité hausse tout, c'est à lire dans Presse Océan, l'enseigne Bagelstein surfe sur l'affaire Denis Baupin pour promouvoir l'ouverture de sa boutique dans le centre-ville de Nantes. Elle fait le buzz, mais elle s'attire aussi un flot de critiques. L'affiche, photographiée à Nantes et relayée sur les réseaux sociaux ce vendredi, met en scène un échange de SMS fictif avec Denis Baupin, ex-numéro 2 de l'Assemblée, qui commence par un trait distingué. Il est chaud, votre trou? Réponse, évidemment monsieur. Je peux passer quand vous voulez, entre 8h et 21h. Quel âge? Comment ça, quel âge? Nos baguels sont frais du matin. Vos baguels? Ben oui, monsieur Baupin, on vend des baguels, nous. Ah, désolé, c'est une erreur. C'est une publicité photographiée à Nantes. L'entreprise souhaite faire la promotion des baguels Elle utilise l'affaire Denis Baupin, critique des organisations féministes. Notamment, enfin, les années 2010 seront peut-être aussi marquées par le retour des Bleus 3-0 hier soir face à l'Écosse. Dernier match avant l'ouverture de l'Euro 2016 dans quelques jours. Maintenant, vous êtes impatiente, Patricia. La Provence, les Bleus rassurent, la France exulte. La Voix du Nord, on n'y a vu que du bleu. Ce soir, le JDD nous explique que François Hollande ira aller soutenir les Bleus à Clairefontaine. Ce sera juste après son interview dans l'émission L'Œil du Tigre de notre ami Philippe Collin. Interview de François Hollande dans L'Œil du Tigre sur France Inter. Je pense que ce sera l'un des événements de la décennie 2010.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.